Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. Au menu, le devant le Conseil de sécurité, les humanitaires dénoncent la catastrophe dans le nord-ouest de la Syrie. La haut-commissaire aux droits de l'homme affirme qu'au Sahel, la fin du djihadisme passera aussi par la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Et en dossier, l'alcool et le tabac chez les jeunes peuvent conduire à la consommation d'opiacés à l'âge adulte. Le Conseil de sécurité a fait le point ce jeudi de la situation en Syrie. Ursula Müller, la chef adjointe de l'humanitaire des Nations Unies, a prévenu les membres du Conseil que les besoins de la population en Syrie restaient immenses et continuaient d'augmenter sur fond de catastrophes humanitaires dans le nord-ouest du pays. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire a augmenté en 2019 de 1,3 million, atteignant 7,9 millions de personnes en 2020 en Syrie. C'est le constat présenté ce jeudi par Ursula Müller, la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux affaires humanitaires, devant les membres du Conseil. Selon elle, le terrible bilan humain de la situation dans le nord-ouest de la Syrie exige l'attention et l'action du Conseil de sécurité. Elle a fait écho à l'appel du secrétaire général en faveur d'un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin à la catastrophe humanitaire et éviter une escalade incontrôlable. Selon les dernières données dont dispose l'ONU, près de 950 000 personnes ont fui les combats dans le nord-ouest depuis le 1er décembre. La plupart se sont installées dans le nord-ouest du gouvernorat d'Idlib, une petite zone le long de la frontière syrienne avec la Turquie qui abrite déjà des centaines de milliers de personnes déplacées. La directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Henrietta Fore, a également dénoncé une situation qui s'aggrave de jour en jour en Syrie, avec des enfants qui seraient morts de froid. Selon elle, la communauté internationale ne peut laisser un tel carnage se poursuivre et le droit international humanitaire continue d'être bafoué au cours de l'année 2020.
À Genève, la haute-commissaire aux droits de l'homme a présenté ses priorités ce jeudi devant le Conseil des droits de l'homme. Michelle Bachelet a notamment affirmé qu'au Sahel, la fin du djihadisme passera aussi par la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Elle est revenue sur les tensions entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria, la situation dans le bassin du lac Tchad ainsi qu'au Cameroun. Aussi, Madame Bachelet s'est inquiétée du processus électoral en Guinée, appelant les autorités de Conakry à veiller à ce que le processus soit transparent et ouvert à tous. On l'écoute.
En Guinée, des démonstrations récentes ont demandé des élections transparentes et justes, ont donné lieu à des dizaines de morts. Il y a aussi des divisions ethniques qui se creusent avec des incitations à la haine et à la violence dans les médias sociaux et lors des manifestations politiques. Toute escalade de la crise pourrait avoir des conséquences néfastes. L'Organisation internationale de la francophonie a constater des irrégularités dans le registre des électeurs. Et j'exhorte donc les autorités à éviter des troubles supplémentaires et veiller à ce que le processus électoral soit transparent et inclusif.
Et puis toujours s'agissant du Conseil des droits de l'homme, retour sur l'intervention mercredi de la ministre en charge des droits humains et de la promotion civique du Burkina Faso. Lors du débat de haut niveau, Maminata Ouattara a insisté sur les défis sécuritaires majeurs qui ont conduit son gouvernement à intensifier ses efforts dans la lutte contre le terrorisme. Pour autant, le pays poursuit un travail de longue haleine contre la réduction des inégalités et la lutte contre la pauvreté. Maminata Ouattara.
À l'instar de nombreux pays de la région du Sahel, mon pays fait face à des défis sécuritaires majeurs qui l'ont conduit depuis 5 ans à intensifier ses efforts dans la lutte contre l'hydre terroriste dans le respect et la protection des droits humains. En effet, depuis janvier 2015, le Burkina Faso est engagé dans une lutte contre le terrorisme. Les attaques terroristes, en plus de priver les populations de leurs droits légitimes à la santé, à l'éducation et développement portent atteinte à leur droit à la vie et à la sécurité. À la date du 12 février 2020, les attaques terroristes ont occasionné le déplacement de 765 517 personnes vers des localités jugées sûres. Cette nouvelle conjoncture a conduit le gouvernement burkinabé à redéfinir ses priorités dans la mise en œuvre de son plan national de développement économique et social. À cet égard, le Burkina Faso a initié, entre autres, le programme d'urgence pour le Sahel et le programme d'appui au développement des économies locales.
Il est important de mettre en œuvre des politiques nationales et des services pour protéger les enfants et les adolescents, filles et garçons, des substances psychoactives. C'est ce qu'avertit l'organe international de contrôle des stupéfiants dans son nouveau rapport, publié ce jeudi. Ces substances psychoactives ont chez les jeunes des effets différents et plus prononcés que chez les adultes. L'étude de l'OICA signale que plus l'usage de l'alcool, du tabac et du cannabis est précoce, plus le risque d'usage d'opiacés et de cocaïne à l'âge adulte est élevé. Pour en savoir plus, nous avons joint Bernard Leroy, membre de l'OICS.
Nous sommes dans une situation où nous avons de plus en plus de problèmes avec la cocaïne qui se répand dans le monde entier et qui est de plus en plus pure, notamment en Afrique de l'Ouest et en Europe, et qui est utilisée par des classes sociales nouvelles. C'est-à-dire avant, c'était les milieux chics. Maintenant, il y a une banalisation, on en trouve même dans les villages en France. Il y a une classe moyenne nouvelle africaine qui prend de la cocaïne. Et comme la cocaïne qui est envoyée est très pure, ça veut dire que ça permet aux trafiquants de faire, en fin de parcours, des coupages qui multiplient les quantités. La deuxième drogue qui nous pose un très gros problème, c'est les méthamphétamines. Alors, la cocaïne, c'est un stimulant. Les méthamphétamines, c'est aussi des stimulants. Et c'est par contre des drogues d'origine de synthèse. À l'origine, c'est sorti de l'éphédrine. Et pendant la dernière guerre mondiale, c'était quelque chose qui était utilisé pour que les soldats restent plusieurs jours sans dormir, n'étant pas fatigués. L'éphédrine maintenant se répand sur tous les continents et, chose particulièrement étonnante, en Asie où pendant des siècles la tradition était plutôt de prendre des drogues à effet sédatif comme l'opium et non pas des stimulants. Le troisième produit qui connaît actuellement un grand succès, c'est évidemment le cannabis. Le cannabis se répand partout et le cannabis est de plus en plus fortement dosé. Mais il y a aussi un phénomène particulier qui est la consommation de fentanyl. Alors le fentanyl, c'est un médicament utilisé en salle d'opération. Un laboratoire américain a décidé de donner au fentanyl une image positive par rapport aux gens qui ne vont pas bien, sont dépressifs. Les médecins américains, pour faire de l'argent malheureusement, se sont mis à le prescrire massivement. Or, c'est un type de prescription qui est inapproprié et par ailleurs, c'est un médicament où de très faibles variations de doses peuvent être fatales. Et c'est ainsi qu'on a eu 60 000 morts par overdose suite à des prises de fentanyl. Le fentanyl est surtout concentré pour le moment ses usages toxicomaniaques aux États-Unis, au Canada et dans les pays anglo-saxons. Mais il y a un pays balte, l'Estonie également, où le phénomène se développe de manière importante.
Alors, à quoi attribuez-vous, en fait, cette croissance d'utilisation de ces stupéfiants à travers la planète ?
Alors, il y a plusieurs facteurs qui jouent et qui ne sont pas pris en compte. C'est certain qu'il y a le marketing, entre guillemets, des trafiquants et le fait qu'ils essayent sans arrêt de se faire de nouveaux clients. Il y a aussi ce qu'on appelle l'influence des pairs, PAIRS, parmi les jeunes. Et appartenir à un groupe de jeunes, le cannabis est un des signes de l'appartenance à ce groupe. Et donc, c'est un facteur qui développe le phénomène. Mais il y a d'autres facteurs dont on parle assez peu et auxquels je voudrais d'ailleurs que les médias s'intéressent parce que c'est très important pour faire de la bonne prévention. Nous vivons dans une société qui a développé la publicité et l'idée du produit réponse à tout. C'est-à-dire que vous avez un problème du linge gris, moi, publicitaire, je vous vends une lessive, persil, et votre linge sera propre. C'est-à-dire qu'à des problèmes relativement compliqués, vous avez des réponses simples. Eh bien, le recours à la drogue, c'est exactement l'illustration de ça par rapport au problème de l'adolescence, où on ne sait pas trop où on en est, par rapport aux difficultés de la vie et aux choses qu'on a du mal à affronter. Donc nous sommes dans une époque où les gens sont souvent pas très heureux, il y a beaucoup de difficultés, et de ce fait-là, la drogue constitue, croit-il, un moyen de contourner ces difficultés.
Que faut-il faire alors ?
Eh bien, il faut qu'il fasse du sport, il faut qu'il ait des activités qui le valorisent, il faut qu'il puisse s'investir dans des domaines où il trouve des satisfactions. Il faut qu'il ait un rapport sain avec son corps, et notamment par le sport et l'activité physique, et il faut qu'il s'investisse intellectuellement. Alors, ce n'est pas facile, mais c'est possible.
Voilà, fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.